Radio Campus Orléans 88.3 avec en direct par téléphone Isabelle Stengers. Nous parlons de Une autre science est possible, manifeste pour un ralentissement des sciences. Bonsoir Isabelle Stengers, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Ma première question, une question assez ambitieuse, mais vous l'évoquez dès les premières pages de votre livre. Quelle est cette différence essentielle et qui va peut-être nous conduire tout au long de l'entretien que nous allons avoir ensemble, quelle est cette différence entre matter of concern et matter of fact?
Ça, c'est une différence qui a été créée, pas par moi du tout, par Bruno Latour, et qui, je crois, est extraordinairement pertinente aujourd'hui, parce que un peu partout se posent des problèmes auxquels des experts répondent sur base de ce qu'on peut appeler matter of fact, c'est-à-dire les faits sont formels, vous pouvez vous rassurer, nous pouvons déduire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'effectivement, ils disent, les faits ne nous permettent pas de prouver qu'il y a un problème. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire Séralini, avec ses rats nourris aux OGM. Ouais, méthodologiquement, il y avait quelques failles, et donc c'est pas prouvé, donc circuler, les matter of fact ne sont pas réunis pour faire autorité. Ça n'empêche pas que Séralini, par exemple, a soulevé un lièvre, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien ce qu'on appelle matter of concern, c'est-à-dire un souci, quelque chose sur lequel il conviendrait d'hésiter et de penser, quelque chose qui regarde l'ensemble du public, l'ensemble des citoyens. Et donc, matter of concern, c'est pour rappeler que pour les questions qui importent, qui nous font hésiter, qui devraient nous faire penser ensemble, le matter of fact, les faits qui parlent, les faits qui se font autorité, sont une espèce d'expropriation de « vous n'avez pas besoin de penser parce que la seule pensée qui vaille, c'est celle qui se fonde sur les faits qui prouvent ». Donc il y a là quelque chose qu'il faut distinguer, parce que c'est là que se situe souvent, on pourrait dire, l'expropriation au nom des sciences de questions qui nous concernent, par rapport auxquelles nous devrions penser ensemble, collectivement, politiquement.
Et alors cette dichotomie matter of concern, matter of fact, ça nous renvoie au problème d'autorité. Il y a un problème d'autorité alors?
Il y a un problème d'autorité absolument, parce que quand un scientifique dit « les faits montrent que », là, nous sommes censés nous incliner, sauf à être traités d'irrationnels, sans nous demander qu'est-ce que c'est que ces faits et qu'est-ce qu'ils montrent. Je vais vous donner un exemple, celui des OGM est toujours, comment dirais-je, très parlant. Les scientifiques qui ont promu les OGM nous ont dit, et ça c'était une question de matter of fact, c'était eux qui parlaient, les OGM, parce qu'ils augmentent la productivité agricole, sont la voie obligée pour résoudre ce problème qui est digne de nous faire penser qu'il y a la faim dans le monde. Hein? Bon, eh bien, circuler, le progrès passe. Or, le matter of concern, la faim dans le monde comme matter of concern pose des questions que les OGM ignorent complètement. Et des questions qui ne sont pas ignorées, il suffit d'aller dans d'autres départements de recherche pour savoir que la faim dans le monde concerne des mécanismes aussi économiques, sociaux, de distribution, d'inégalité sociale, etc. Et que là, les OGM, loin d'être la solution rationnelle, risquent d'aggraver le problème. Donc là, il y a vraiment quelque chose où il faut penser, voulons-nous, est-ce que l'avenir de notre agriculture passe par les OGM, matter of concern, ou bien devons-nous nous incliner devant la voie rationnelle du progrès? La productivité est l'essentiel.
Alors, avec ce concept de matter of concern, on voit bien que ça gêne les scientifiques, ça gêne l'autorité scientifique. Et quelques pages plus loin, vous parlez de cette crainte des scientifiques de voir le public partager leur savoir, mais pas n'importe quel savoir, leur savoir de la manière dont la science se fait.
Oui. Mais on pourrait dire que le problème est double. Aujourd'hui, on va y revenir certainement, il y a quelques craintes à avoir du point de vue des scientifiques, parce que parfois, elle peut se faire de manière peu avouable. Il y a quelques craintes par rapport à la fiabilité des sciences. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que les scientifiques craignent de manière tout à fait générale. Et ça, je crois que ça pose un problème de culture et même d'éthos du scientifique. Les scientifiques savent, ne pensent pas à la science en général. Il y a beaucoup de querelles entre scientifiques. Pour certains, ce que fait le voisin, c'est faux, c'est faible, etc. Mais il y a un seul point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est le public ne doit pas être mis au courant de ce type de doute. Le public doit conserver sa confiance dans la science, dans cette image de la science comme méthode rationnelle permettant de produire de la connaissance fiable. Le public, pour les scientifiques et tels qu'ils sont élevés, est synonyme d'irrationnel, synonyme de désir et de croyance égoïste. Et donc, si les gens, les non-scientifiques, se jugeaient habilités à intervenir dans des questions où la science est en jeu, eh bien, ce serait la porte ouverte à l'irrationnel. Ce serait la porte ouverte pour certains, même à la barbarie. Et donc, le public doit être tenu à distance respectueuse, doit honorer les sciences, mais ne doit pas comprendre ce qu'elles demandent et comment elles fonctionnent. C'est, je crois, l'un des déficits démocratiques les plus criants, il y en a d'autres, mais l'un des plus criants de notre époque, c'est ce refus de la possibilité d'une intelligence publique des sciences, d'une possibilité que des gens prennent en main et soient effectivement concernés par des problèmes qui, de fait, les concernent.
Oui, parce que cette distance maintenue par le scientifique, comme vous venez de l'expliquer, elle pose des problèmes, cette mise à distance du fait que les scientifiques ne souhaitent pas qu'il y ait une intelligence publique sur la manière dont la science se fait.
Mais je crois que les scientifiques ne croient même pas à la possibilité d'une intelligence publique. Ils croient à la possibilité d'une irrationalité publique. Donc, c'est véritablement une lutte que de faire exister ce possible, là où les gens ont bâti leur conception de ce qu'ils font, leur représentation de ce qu'ils font, sur le thème de la science triomphe de l'opinion. La science vainc l'opinion. Et elle a une représentation qui n'a rien à voir avec ce qu'est la recherche scientifique au sens où elle est vivante, mais qui fait tenir ensemble cette espèce d'institution qu'on appelle la science et qui empêche les chercheurs eux-mêmes de penser ailleurs, de se dire qu'il pourrait être possible de partager activement des problèmes, des matter of concern, avec des non-diplômés, avec des groupes concernés.
Or, en même temps, il y a un problème, c'est que les scientifiques lancent un signal d'alerte avec ce leitmotiv « Sauvons la recherche ». Et là, vous posez cette question, sauver la recherche, mais de quoi ?
Mais oui, c'est un problème qui souvent ne se pense pas, c'est-à-dire que les chercheurs se fondent sur l'idée que la recherche est encore globalement respectée aujourd'hui et qu'ils peuvent faire appel au public sur ce mode consensuel. Et de fait, ils sont inquiets, parce que depuis une bonne vingtaine d'années qu'en Europe s'est installée l'économie de la connaissance, toute leur manière de concevoir leur rôle a été ébranlée et est en train d'être détruite. Auparavant, on leur donnait une certaine indépendance pour poser leurs questions. Et c'est quand ils posent leurs questions qu'ils travaillent vraiment. Je veux dire qu'ils sont à leur affaire et qu'ils peuvent produire du savoir fiable. Aujourd'hui, pour obtenir des subventions de recherche, eh bien, il faut s'être assuré de l'intérêt et donc de l'aide financière du privé. Donc, il faut des partenariats et l'une des réussites qui permet à la carrière du chercheur de prospérer, c'est obtenir des brevets. les brevets avec, comment dirais-je, ce que ça signifie de secret industriel, et aussi que finalement on prend des brevets pour beaucoup de choses qui ne sont pas prouvées. Ça intéresse l'industrie. Donc la recherche aujourd'hui, surtout dans les domaines qui intéressent l'industrie, biotechnologie, nanotechnologie, recherche biomédicale, etc., on peut dire que la recherche est littéralement asservie, c'est-à-dire qu'elle a perdu le minimum d'indépendance qu'elle avait pu sauvegarder jusqu'ici. Et donc, les chercheurs sont inquiets. Et ils ont raison de l'être, parce qu'à mon avis, en régime d'économie de la connaissance, ce qui faisait la vitalité de cette activité curieuse, ce qui réunissait les chercheurs et les rendait pensants et intéressants, dans mon expérience, eh bien, cela est en train d'être détruit. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne pourra pas savoir, quand on entend un chercheur dire « j'ai montré que », ce qu'il dit, c'est-à-dire si ce qu'il a montré a surmonté le type d'épreuve qui, pour la communauté des chercheurs, donne sa valeur à un résultat. Donc, ils sont inquiets. Le problème, c'est que quand on dit souvent la recherche sans dire de quoi, on maintient le public dans son ignorance et à la distance respectueuse, on lui demande d'aider ces héros de l'humanité que sont les chercheurs. Ça veut dire qu'on rêve à un retour au passé, du temps que la science était respectée. On demande qu'elle soit de nouveau respectée. Beaucoup de scientifiques seraient d'accord avec l'idée sur laquelle on va venir de ralentir la science, puisqu'elle est activée par ce produire, toujours produire, des brevets, des retombées, des projets avec des impacts qu'on garantit d'avance, etc. Beaucoup de chercheurs diraient « nous voulons récupérer notre indépendance et le temps pour penser ». Par contre, ce sur quoi j'insiste moi, c'est que ce n'est pas un retour au passé qu'il nous faut. Ce n'est certainement pas un retour au passé, c'est le développement d'une recherche producteur de scientifiques assez intelligents pour savoir que ce qu'ils peuvent proposer à propos d'une situation d'intérêt collectif, matter of concern collectif, ce qu'il peut proposer n'aura de sens et de signification que si ça rencontre l'intérêt, les objections, les conséquences qu'ils ne peuvent apprendre que des non-scientifiques ou que d'autres scientifiques qui suivent des voies divergentes. Quand ils seront capables de lier des liens intelligents avec ceux qu'ils ont l'habitude de mépriser au nom de « nous avons la solution rationnelle, les doutes et les inquiétudes ne sont que des obstacles qui nous empêchent de donner les réponses que nous sommes enfin capables de donner. »
Mais alors les scientifiques vont buter contre leur éthos.
Mais c'est une question d'éthos qui doit changer. Souvent on dit c'est l'esprit scientifique, mais c'est pas du tout l'esprit scientifique au sens où ça accompagnerait la recherche en tant que telle. Non, c'est quelque chose qui est construit dès l'éducation, la formation des chercheurs, ça veut pas dire que tous les chercheurs sont comme ça. Il y a toujours eu des chercheurs récalcitrants, il y a toujours eu des chercheurs tireurs de sonnettes d'alarme, toujours des chercheurs qui posaient des questions qu'un vrai scientifique n'est pas censé se poser et qui prenaient au sérieux des objections qu'un vrai scientifique devrait mépriser. Mais on reconnaît l'éthos à l'idée, est-ce que c'est un vrai chercheur, cette idée de vrai chercheur. Et effectivement, les minoritaires qui résistent, les minoritaires qui tentent de faire penser les autres, seront toujours regardés avec suspicion. Mais si tu poses ce genre de questions, tu n'es plus un vrai chercheur. Un vrai chercheur doit contribuer tout son temps et toute son énergie à l'avancement de sa science, des questions que sa science permet de poser, et surtout ne pas perdre son temps à des questions qu'il pourrait partager avec d'autres, qui pourraient le faire hésiter avec d'autres. Donc il y a là-dedans, dans cette idée que perdre son temps est quasiment un péché, et met en question, met en cause la nature de véritable chercheur, ce genre d'éthos qui fait que, pour les scientifiques, quand je dis le public est irrationnel, c'est pas un jugement de connaissance, c'est pas un savoir, c'est quelque chose qu'ils ont reçu dans leur formation et qui les situe, eux, par rapport à ce public.
Et alors, vous prenez une solution, vous écrivez « Ma conviction est que la seule possibilité de sauver la recherche passe par le réveil du somnambule ». Qu'est-ce que ce somnambule? Qu'est-ce que le scientifique somnambule? Vous faites de longs développements sur le scientifique somnambule.
Ouais, l'éthos du somnambule, c'est encore pire que... Enfin, je veux dire, c'est encore plus rigide, et c'est malheureusement ce qui règne. C'est encore plus rigide qu'on a à perdre son temps avec des questions non scientifiques. Le somnambule, c'est toujours celui qui est sur le fait d'un mur, hein, sur le fait d'un toit. Il se balade sans avoir de vertige, puisqu'il ne se rend pas compte qu'il est en danger. Et si on réveille le somnambule et qu'il voit où il est, il va avoir peur, perdre l'équilibre et tomber. Et donc, le somnambule, c'est cette idée que les scientifiques se font eux-mêmes de la fragilité de leur créativité. C'est-à-dire que si on les réveille, si on leur impose des questions, de partager des questions et des concerns et des soucis et des préoccupations qui ne sont pas purement scientifiques, eh bien, ils vont perdre leur créativité. C'est un peu comme si ceux qui leur demandent de penser avec eux jouaient les agents tentateurs, les agents séducteurs, ceux qui veulent les détourner de leur démarche, de la démarche qui leur permet de créer. Il y a donc quelque chose de pire qu'une indifférence, il y a qu'une crainte et une hostilité de beaucoup de scientifiques à l'idée d'une démocratisation active des problèmes dans lesquels ils interviennent. C'est comme si on voulait tuer le chercheur en eux.
J'aimerais qu'on termine tout cet entretien.
Allô ?
Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez ?
Oui.
Voilà. J'aimerais qu'on termine cet entretien sur la question de Gaïa, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer sur le scientifique, ça pose un problème par rapport à Gaïa.
Oui, ça pose un grave problème par rapport à Gaïa. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, c'est-à-dire que c'est pour ça que je tire une sonnette d'alarme parmi d'autres, hein, mais chacun doit, par rapport aux menaces de l'avenir, faire ce qu'ils peuvent. Ce qu'il peut, et voilà, faire ce livre fait partie de ce que je peux faire. J'ai une certaine... c'est-à-dire ce problème de l'éthos des scientifiques et de leur somnambulisme est largement partie prenante du fait que notre mode de développement, innovation industrielle, etc., se révèle, et des scientifiques avaient dit avant, c'est pas une surprise, insoutenable, non durable. C'est-à-dire que l'idée que la science sert le progrès humain et que s'il y a des dégâts, c'est le même progrès qui arrangera les dégâts, n'est plus une position tenable. Alors que c'était la position des scientifiques, ceux qui doutaient de ce progrès étaient en fait du côté de l'irrationalité très souvent. Bon, eh bien, aujourd'hui, ce qui nous attend avec l'ensemble des désordres climatiques, de pollution, etc., c'est un type de savoir qui se doit d'être lucide et intelligent, parce que nous ne résoudrons pas ces problèmes par la science, c'est-à-dire du sommet, disant voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est l'ancien mode de développement. Ici, il s'agit de produire des scientifiques capables de contribuer avec lucidité et capables de partager et de respecter les problèmes que posent les autres protagonistes d'une situation. Ils sont peu formés pour ça. Et ils ne changeront pas spontanément. Donc, parler d'un ralentissement de la science, parler d'une science qui prend le temps d'apprendre à penser en dehors de l'avancée de la connaissance, eh bien, c'est en appeler à tout ce qui peut les forcer à se réveiller. les forcer à se réveiller. Par exemple, quand un scientifique passe dans un jury, devant un jury citoyen, il vaut mieux qu'il ne soit pas somnambule, parce que les citoyens qui l'interrogent sur une situation, si le dispositif est bien fait, vont lui demander de rencontrer des objections, de rencontrer des contre-experts que normalement il néglige, de penser la situation et non pas de, comment dirais-je, de dire de manière dogmatique que la solution qu'il propose est la solution rationnelle. Dans un monde qui serait plus exigeant démocratiquement, qui créerait des situations où ce que nous décidons de faire doit et peut être discuté, les scientifiques seraient forcés à changer.
C'est ce que vous appelez l'intrusion de Gaïa.
L'intrusion de Gaïa, c'est ce qui nous force, si nous voulons un avenir digne de ce nom, à changer beaucoup de choses, mais aussi ce qu'on appelle la science, c'est-à-dire les scientifiques.
Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Stengers, d'avoir été avec nous en direct par téléphone. Merci.
Eh bien, je vous remercie aussi beaucoup.